France Culture. France Culture, le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 8h. Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase de l'accord de trêve reprendront demain à Washington. Hier, le mouvement islamiste a relâché 3 otages en échange de plus de 180 prisonniers palestiniens. Et puis, nouvelle journée d'action contre l'Empire Bolloré. Un rassemblement est organisé aujourd'hui en Bretagne. Hier, une manifestation de ce type a été interdite par la préfecture de la Vienne. Le franco-israélien Ofer Calderon est depuis hier un homme libre. Il a été relâché avec 2 autres otages contre des prisonniers palestiniens. Des libérations saluées, bien sûr, en Israël, même si la famille Bibas, elle, n'est pas revenue au complet. Si le père est de retour, sa femme et ses 2 enfants ne sont pas revenus. Le Hamas a annoncé leur mort dans un raid israélien, mais Israël n'a jamais confirmé. Et alors que les négociations sur la phase 2 de l'accord de trêve commencent demain à Washington, hier soir à Tel Aviv, plusieurs milliers de personnes se sont encore une fois rassemblés sur la place des otages. Valentin Dunat y était avec Jérémy Thuil.
Il y a des images fortes, importantes pour les Israéliens, comme cette vidéo diffusée sur les écrans géants de cet otage libéré il y a 2 semaines. Mais pour les familles de ceux encore retenus à Gaza, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Edith Ohel est la mère d'Alon Ohel, enlevée lors du festival Nova.
Je suis vraiment heureuse pour les familles qui retrouvent leurs proches. C'est un jour joyeux. Mais évidemment, je pense aussi à mon fils, Alon Ohel, un civil qui, lui, est toujours en captivité à Gaza.
Elle, comme d'autres familles réunies ici, apprécie le soutien, les chants de ces milliers d'Israéliens autour d'eux. Cette femme attend désormais avec impatience et anxiété les négociations qui commencent demain sur la deuxième phase du cessez-le-feu.
Ça me préoccupe beaucoup, oui, parce que passer de la première à la deuxième phase n'est pas simple. Ça implique de nombreuses concessions de part et d'autre, mais je suis pleine d'espoir. Et je crois que notre gouvernement et le président Trump vont faire en sorte que ça fonctionne et que tout va bien se passer.
Cette mère de famille qui attend son fils depuis 485 jours place beaucoup d'espoir en Donald Trump, que Benjamin Netanyahou rencontre mardi à Washington.
En échange de la libération des 3 otages, Israël a relâché 182 Palestiniens hier et un Égyptien. 150 ont été transférés dans la bande de Gaza, 25 en Cisjordanie et 8 ont été expulsés en Égypte. L'Égypte, où une nouvelle institution s'est donnée pour mission de chasser les fausses informations sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ce qui n'est pas sans inquiéter dans un pays qui figure à la 170e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse de reporters sans frontières. Au Caire, Martin Dumas-Primbault.
Lutter contre le chaos qui règne sur les réseaux sociaux. Voilà l'expression qui a présidé au lancement début janvier d'une plateforme d'un genre nouveau soutenue par le gouvernement égyptien.
Notre rôle est de faire savoir quelles sont les vraies nouvelles et les fausses informations. Nous disons attention, ce média, ce diffuseur propage des mensonges. On répond avec des arguments précis, pied à pied.
Ayman Adli fait partie du conseil d'administration du syndicat des médias, proche du pouvoir et à l'origine de cette initiative. Il détaille les sujets les plus sensibles sur lesquels va se concentrer le centre.
La sécurité nationale, les prix, la situation économique, la sécurité nationale aux frontières, l'armée égyptienne. Certaines informations peuvent nuire à la sécurité nationale égyptienne et nous y répondrons.
Mais pour Mahmoud Kamel, membre du syndicat indépendant des journalistes, récemment passé dans l'opposition, ce n'est pas à l'État lui-même de lutter contre la désinformation.
La lutte contre les rumeurs ne passe pas par un centre spécial. Pour que l'information soit crédible, il faut avant tout promulguer une loi sur la liberté d'information et ne pas restreindre le travail des journalistes.
Ces derniers mois, plusieurs journalistes et dessinateurs de presse ont été arrêtés ou menacés pour leur travail. Une quinzaine d'entre eux sont toujours derrière les barreaux.
Le contrôle des médias également en question en France, mais cette fois c'est un groupe privé qui est dans le collimateur, l'Empire Bolloré. Une nouvelle journée d'action est organisée ce dimanche en Bretagne, à Begmel, où le milliardaire possède une résidence. Une centaine d'organisations alertent sur la menace que représente, selon elles, la puissance financière, industrielle et médiatique de Vincent Bolloré. Véronique Roberotte a joint Paula, une des coordinatrices de cette campagne qui ne fait que commencer. Écoutez son point de vue.
L'idée de Vincent Bolloré, c'est un projet civilisationnel, hein, tel qu'il le dit lui-même, complètement glaçant. Le projet de Vincent Bolloré, il faut le cerner entre les mots et à travers ses actions, puisqu'il n'avance pas complètement au grand jour, mais on le voit bien avec le rachat de Canal+, la ligne directrice de CNews, mais aussi maintenant d'Europe 1 avec l'émission de Pascal Praud. Cette transformation progressive et l'action qu'il a sur les rédactions des médias qu'il rachète pour les transformer en parloir de l'extrême droite, ça dessine un projet de société qui est très clairement tourné vers l'avènement du Rassemblement national au pouvoir en France. C'est quelqu'un qui investit de façon intelligente et son projet est cohérent. Il se fait valoir comme un bon patron breton qui prend soin de ses employés. Le projet, il est bien plus terrifiant que ça soit de l'exploitation des terres en Asie du Sud-Est, pour lequel il a été d'ailleurs plusieurs fois en procès et l'est encore, à l'investissement dans les batteries au lithium en tentant de prendre la main sur des mines de lithium ailleurs dans le monde, notamment en Argentine, pour lequel il est aujourd'hui bloqué. Et quand on voit la place qu'a pris Elon Musk dans l'avènement de Donald Trump au pouvoir, on ne peut que faire la comparaison et s'inquiéter grandement quand Vincent Bolloré se met à parler à travers ses médias.
Les premières dispositions du règlement européen sur l'intelligence artificielle entrent en vigueur aujourd'hui, un règlement qui vise notamment à encadrer l'utilisation et le développement de l'IA dès lors qu'elle menace les libertés fondamentales. C'est une première mondiale. François Bayrou va, comme attendu, utiliser le 49.3 pour faire adopter par l'Assemblée les budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Le Premier ministre le confirme dans un entretien accordé à la Tribune dimanche. Le temps aujourd'hui ensoleillé après dissipation des grisailles matinales. Les températures au meilleur de la journée, 6 à 9 degrés. Sur la moitié nord et les Alpes, 10 à 13. Dans le sud-ouest, 12 à 17 sur les régions méditerranéennes.